Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans La Tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Je vous propose tous les lundis une conversation authentique avec des entrepreneurs et des figures hyper inspirantes pour, je l'espère, vous permettre à votre tour de réaliser tous vos projets et impacter notre société positivement. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Sans plus attendre, je vous souhaite un excellent épisode. Les amis, avant de vous présenter ce super podcast, je voudrais remercier notre partenaire du jour, c'est BNP Paribas Banque Privée. Pour rappel, aujourd'hui, 25% des startups échouent dès les deux premières années de leur existence et c'est jusqu'à 50% au bout de 5 ans. Et justement, BNP Paribas Banque Privée a lancé plusieurs initiatives afin de les aider à consolider leur réseau et à adopter dès le début les meilleurs choix patrimoniaux. Le groupe BNP Paribas accompagne aujourd'hui un tiers des PME et deux tiers des ETI françaises, mais aussi 85% du Next 40 et 78% de la French Tech 120. Vous pouvez demander un rendez-vous avec un banquier privé sur leur site internet, rubrique « Prendre rendez-vous ». N'hésitez pas également à les suivre sur les réseaux sociaux et en particulier sur Instagram @partnerinbusiness, tout attaché. Encore merci à BNP Paribas Banque Privée de nous faire confiance et de nous permettre de vous proposer ce podcast. Bonne écoute à tous. Est-ce que c'est plus facile d'entreprendre en couple ?
Alors, comme dans toute situation, il y a des avantages, des inconvénients. Moi, je pense que la force de l'entrepreneuriat familial, c'est que tu vis tellement de choses au-delà du business que finalement, t'es très fort et t'es une entité commune qui permet d'avancer plus loin, plus vite aussi, de prendre des décisions ou...
C'est la communication, tu dirais, qui est beaucoup plus simple, en fait.
Oui, oui, parce que tu l'as au quotidien et que t'as les mêmes codes, les mêmes valeurs. Mon mari, je le connais depuis que j'ai 15 ans.
Mais non.
Donc, en fait, on a vécu tellement de choses ensemble. Et parfois, des tempêtes, des intempéries, des catastrophes, des choses très dures. Donc, pour nous, l'entrepreneuriat, c'est très dur. Mais au moins, on n'est pas seul. Et on sait que même s'il y a des périodes difficiles, le soleil revient après la tempête et on en sort plus fort. Donc, c'est vrai que cette force de connaître vraiment d'où tu viens et tout ce que tu as vécu, ça te permet finalement... d'appréhender des situations beaucoup plus facilement. Alors que si tu entreprends avec, quelqu'un que tu connais pas, tu as tout l'aspect découvert qui peut t'entraîner des freins ou des non-dits, etc. Là, parfois, on parle pas et on se comprend.
Alors, tu le connais depuis 15 ans, mais pour juste les personnes qui se posent la question ou si je te posais la question de manière différente... Si ton couple n'était pas béton, est-ce que tu aurais pris le risque de, en plus, te rajouter cette charge mentale, émotionnelle et même physique aussi, de bosser quoi, avec ton conjoint ?
Après, oui, il faut avoir des bases solides, c'est sûr.
On est d'accord.
Moi, avec toutes ces années, j'ai ces bases solides. Si tu connais ton conjoint que depuis quelques mois, je ne vais pas forcément dire « allez-y tout de suite, entreprenez en famille ». Néanmoins, si tu as déjà des points d'accroche, une famille, des investissements par ailleurs, c'est quand même béton. Après, personne n'est à l'abri des aléas de la vie. Et je pense que les gens sont assez intelligents pour segmenter et dire « voilà, ça c'est ma vie pro, ça c'est ma vie perso ». Au début, c'est dur. Moi, par exemple, au début, avec mon mari, on parlait tout le temps du rouge français, même à table, au lit. Enfin, des fois, c'est compliqué de mettre des barrières. Et puis, au fur et à mesure que le stress est monté, les enjeux, la stratégie, on a segmenté. On a dit, voilà, là, c'est la journée de travail, on parle pro. Là, on rentre à la maison, sas de décompression, t'ouvres la porte, c'est fini. C'est perso.
Vous parlez plus du tout du bureau ?
Alors maintenant, oui, on a segmenté. On a fait ses efforts.
Il n'y a pas des moments où t'as envie de lui dire un truc
si,
et tu dis...
Souvent. Souvent. Ou alors, on s'écrit des textos qu'il va découvrir le lendemain. Mais c'est vrai que c'est compliqué parfois.
Prévoir l'envoi plus tard, je vois très très bien. Est-ce que le rouge français, et là, je pose à toi, mais même en tant que couple... C'est horrible la question, j'allais dire, est-ce que c'est plus important que vos enfants ? Pas du tout, non. La question, c'est est-ce qu'il y a une comparaison ? Est-ce que tu vois entre... Bah, en plus, le rouge français, vous l'avez créé, mais si j'ai bien compris, tu étais enceinte à ce moment-là.
Mais c'est
donc
ça,
t'as
c'est
tout
lié.
Vécu en même temps. On a parlé de vie pro, vie perso, là, un petit peu, mais est-ce que c'est comparable ou pas du tout, en fait ?
En fait, la clé, c'est d'avoir cet équilibre. On est toujours comme un équilibriste sur un fil, vie pro, vie perso à équilibrer, prioriser tes tâches au quotidien, tes tâches de maman, tes tâches de couple, tes tâches de entrepreneur. Tout est intimement lié. Moi, j'écris Le Rouge Français sur ce déclic, voilà, de la grossesse. Et mon leitmotiv, ma passion au quotidien, c'est la transmission. Donc, il n'y a pas Rouge Français plus important que mes enfants. En fait, c'est né de mes enfants. Et c'est aussi pour ça que je me lève tous les matins, pour leur transmettre ces valeurs. Transmettre à ma fille, à mon fils, mais aussi aux générations futures, une beauté avec des codes différents, avec des engagements forts sur la santé, des engagements forts sur l'éco-responsabilité. Moi, voilà, à travers Le Rouge Français, j'éduque aussi ma fille à faire attention à la planète, à être dans chacun de ses choix sur des choix vertueux, éco-responsables. Quand on va pitcher dans les médias, elle me voit à la télé, elle est toute fière et elle dit « Maman, c'est une porte-parole de la Green Tech, du code vert voilà, du gouvernement français. »
Et ça,
voilà, on recoque vert, on y retourne. Mais c'est vrai que ça, c'est des valeurs aussi qu'ils apprennent de plus en plus à l'école, petits, préserver leur milieu de vie. Mm-hmm. Et moi, j'ai l'impression que cette mission du Rouge Français, c'est ça aussi, c'est cette transmission au quotidien.
Avant de terminer sur ces questions d'outro, j'avais quand même du coup, je voulais en venir. Tout à l'heure, tu as parlé de ton équipe, vous êtes une dizaine, et tu as dit qu'ils sont passionnés et que presque autant, si ce n'est presque parfois plus que toi, en tout cas, tu les vois embarquer dans l'aventure. Et récemment, j'ai reçu des anciens sportifs de haut niveau, dont un qui a gagné la NBA quand même. Et je lui disais justement, comment on peut réussir à demander un truc qui est donc de la passion, qui n'est pas palpable, qui ne se chiffre pas à de l'argent, donc envers tes employés comme tes même si t'es directeur d'un club ou t'es joueur, sachant que tous les 6 mois ou tous les ans, t'as du turnover, les gens peuvent partir. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une limite à ça? Comment toi tu fais pour faire en sorte qu'ils soient passionnés, mais au bout d'un moment, c'est pas eux qui l'ont créé et tu peux pas leur demander d'avoir les mêmes émotions que toi, quoi.
Alors après, c'est la limite du respect et c'est vrai que on respecte leur équilibre vie pro, vie perso. On leur donne aussi des avantages pour les fidéliser au fur et à mesure. Donc oui, tu as toutes les techniques conventionnelles et classiques RH qui te permettent de fidéliser tes partenaires et tes salariés. On va dire que la limite, elle est dans ces choix progressifs d'année en année pour les fidéliser qui restent avec toi. Et on va dire les intégrer aussi dans la machine et le cœur même du process où finalement ils font partie de la maison et de ton histoire au même titre que toi.
Donc c'est les intégrer dans tout ce qui est prise de décision.
Aussi la valorisation de leur travail au quotidien, accès aux informations. Moi, j'ai travaillé dans des grands groupes comme Sanofi, Ipsen, 6 000, 100 000 employés. C'est très différent d'une jeune start-up où tu te sens privilégié parce que déjà, tu apprends au quotidien. Tu n'es pas cloisonné dans une petite bulle et dans ton bureau. Et aussi, tu as des incentives qui sont très personnels et ça va dépendre des gens. Des gens sont plus financiers, d'autres, ils veulent des avantages en nature, voyager, découvrir des nouveaux univers.
Tu vois que l'argent est un élément qui convainc moins aujourd'hui? Tu vois que les gens...
Ça dépend des personnes.
Ça dépend quand même.
Il y a vraiment des profils types et c'est ça aussi dans ton recrutement, tu dois faire des choix. Des fois, tu vois des personnes qui peuvent pas correspondre à l'ADN et à la culture d'entreprise de ta maison, Le Rouge Français. Et d'autres, tu sais que ça va fitter. Nous, on a différents types de profils parce que la diversité, c'est aussi important. Mais tu vas t'adapter à eux et agir sur certains leviers en fonction aussi de leur leitmotiv. Moi, j'ai des passionnés. J'ai par exemple une commerciale. Elle écrit les textes sur les packagings parce qu'elle a une plume incroyable. Quand elle va sur le terrain, je le disais tout à l'heure, c'est son produit. C'est elle qui l'a fait. C'est pas moi la fondatrice. C'est elle. C'est son produit. La maison Le Rouge Français.
C'est beau.
C'est toute sa vie parce qu'elle a mis toute son énergie dedans.
Et c'est la fin de cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes, en vous abonnant évidemment et en nous laissant des commentaires. Hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Ciao !